Salut à toutes, salut à tous, merci de nous rejoindre. Il est 15h30 à la pendule de Radar et nous sommes en direct de la galerie Œil Histrion à Caen comme convenu. On vous a prévenu de tout ça sur les réseaux et autres internets pour cet événement auquel on vous a convié et invité à nous rejoindre puisque nous recevons Jérôme Solini en direct donc sur Radar. Bonjour Jérôme.
Eh bien, bonjour.
Comment ça va ?
Bah ça va super, il fait beau, voilà, je suis à Caen, pas très loin de chez moi, à vol d'oiseau.
À vol d'oiseau.
Voilà, et je vois l'hôpital de Caen de ma terrasse.
Ouais, à vrai d'origine donc.
Voilà, à vrai d'origine.
Donc ça s'inscrivait aussi dans les programmes régionaux de Radar, etc. Aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Merci de nous faire l'honneur de votre visite et de nous présenter ce bouquin qui est sorti en 2020, David Bowie, Rainbow Man, de 83 à 2016. Il y en a eu un premier tome en 2019 qui s'appelait Rainbow Man, évidemment, de 67 à 80. On va revenir sur le sujet. Avant, on va essayer de vous définir un petit peu. Vous êtes biographe, écrivain, compositeur, photographe, conseiller rock and folk plein d'autres.
Enfin, père exemplaire, époux irréprochable. Moi, je suis plein de trucs. Hein, en fait.
Ben oui, oui, oui. Alors, à l'instar de Bowie, j'ai envie de dire presque.
Oui, c'est ça. C'est le point commun s'arrête là. Voilà. Ça,
c'est déjà pas mal. Alors, ouais. On va essayer de faire un petit peu le tri dans toutes ces choses-là, de manière non exhaustive, évidemment, parce qu'on n'aura pas le temps.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'avais une question déjà, ne serait-ce que par rapport aux deux tomes. Déjà, bon, première parution 2018-2019. Deuxième parition 2020 en pleine pandémie. Donc ça,
ouais,
ça a
dû... 2019, c'était juste aussi parce que je crois que c'était... on a fait un événement pour la sortie au mois de novembre et puis après, je crois que c'était début de l'année d'après. Que c'était, on devait faire des choses en Angleterre qu'on n'a pas pu faire. Enfin, voilà, ça a été... Ça a été short, quoi. Mais enfin, effectivement, on a fait très fort en sortant le tome, alors que le deuxième tome, alors que les librairies étaient fermées. Ça, c'était quand même...
Ouais. Mais il y a eu un regain de...
J'étais pas le seul, d'ailleurs, mais tous les auteurs et tous les éditeurs, on était quand même bien dans la mouise, quoi.
Ça vous a pas profité, du coup, parce qu'il y a eu un regain, quand même, de l'envie de lire. Le fait de se retrouver enfermé,
c'est
tout le monde
a profité. Faut être tout à fait honnête, je pense que ça a profité aux ventes en ligne, indiscutablement. Au Havre, comme j'imagine ici, les libraires ont joué le jeu, donc il y avait un système de click and collect, etc. Mais bon, voilà. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que si j'ai bien compris, enfin. Pas si j'ai bien compris, parce que j'ai bien compris, mais Amazon et la Fnac, les gens ne payent pas le port, tandis que sur des librairies indépendantes, ils payent le port, quoi. Et sur des bouquins comme les miens, je fais quand même le roi des gros livres, hein, parce que Writing on the Edge faisait 1700 pages, et là, les deux, c'est énorme, il y en a pour. Le coffret, je crois qu'il fait 4 kilos et des brouettes, donc s'il faut payer le port sur un coffret comme ça, c'est une folie, quoi. Alors donc, en fait, effectivement, je pense que les ventes ont été assez soutenues, pour ceux qui ont eu la chance qu'elles le soient, d'ailleurs, via Internet, mais c'était quand même un peu, je pense que les libraires ont tiré un peu là. Puis surtout que, a priori, ayant eu le bonheur que ça sorte dans la collection des beaux livres de Gallimard, des beaux livres, s'il n'y a pas l'enchantement qu'on peut avoir quand on rentre dans une librairie à Noël, tout ça, c'est quand même dommage.
Oui, donc, ça ne fait pas le même effet,
donc,
effectivement.
Voilà,
ouais.
Mais maintenant, c'est le monde qui est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. On n'est certainement pas forcément les plus à plaindre au niveau des gens qui ont souffert du Covid. Donc je touche du bois, donc je ne vais pas me plaindre. Mais effectivement, sortir des livres quand les librairies sont fermées, c'est forcément bizarre.
C'est toujours compliqué, effectivement. On a la chance d'être dans la galerie L'Œil Histrion, ça je les ai cités tout à l'heure. J'ai oublié de citer Radio Replay qui va multidiffuser cette interview sur sa station, puisqu'on est en partenariat sur cet événement-là. Et donc on se devait forcément de les citer. Alors la galerie se remplit petit à petit, les coffrets sont à disposition, je vais y arriver pour les dédicaces par la suite. Et ce sera à 16h si vous voulez nous rejoindre et que vous écoutez Radar, quel que soit l'endroit, parce que on a beau être fécampois, nous d'origine, on est diffusé partout dans le monde, donc prenez vite un avion et rejoignez-nous. Alors, la petite question autour de Rainbow Man, j'avais noté, moi, Le premier tome se finit à 1980 et le deuxième reprend à 83. Qu'est-ce qui s'est passé pendant trois ans?
C'est une bonne question parce que ça a posé problème à la directrice de collection chez Gallimard qui m'a dit, mais si tu fais ça, les gens vont se demander ce qui s'est passé de 80 à 83. Mais en fait, c'est très simple, cette façon de diviser la carrière de Bowie, en fait, je l'ai faite en années de parution d'album.
D'accord.
Puisque en fait, les deux tomes sont fichus de la manière suivante, c'est qu'en fait, il y a un chapitre consacré à chaque album et dans chaque chapitre il y a moi qui raconte le mieux que je peux l'histoire des enregistrements, puis il y a surtout, ce qui fait la différence si je peux me permettre entre ce livre-là et les autres, c'est qu'après chaque moitié de chapitre c'est les gens qui ont bossé avec Bowie ou qui étaient ses contemporains ou qui ont quelque chose d'intéressant à dire, c'est eux qui s'expriment, c'est-à-dire c'est pas le journaliste, c'est pas l'auteur, c'est eux qui parlent et c'est ça qui fait et donc en clair Bowie a fait un album en 80 mais après il en a pas fait en 81, pas fait en 82, il en a refait un qu'en 83, qui se trouve être en plus Let's Dance, que les Français connaissent bien. Donc c'est la raison pour laquelle il y avait un trou. Mais cette remarque a été... Et je me suis un peu battu pour imposer ça aussi. Il faut savoir que quand on est dans ma position, un auteur comme ça, il faut se battre pour faire beaucoup de choses.
Oui.
Un livre comme Rainbow Man, on parlait avec les gens de la galerie, on parlait des illustratrices, par exemple. Je me suis battu pour les illustratrices parce que quand j'ai dit à Gallimard, très poliment, si vous voulez, je connais des illustrateurs ou des illustratrices.
Ah non, non, il nous faut des photos de Bowie.
Non, non, ils m'ont pas. Non, non, il y a aussi des photos de Bowie, mais ils m'ont surtout dit, mais mon Jérôme, t'imagines que nous, on en connaît 14 milliards, quoi. Et même chose pour le design des livres. Le design des livres est fait par Jonathan Barnbrook, qui a travaillé avec David jusqu'à la fin, les 10 dernières années de sa vie, et qui a même continué après, qui est un designer anglais londonien réputé. Et quand je leur ai dit, on va peut-être prendre un designer anglais londonien réputé, dans leur tête, ça voulait dire cher.
Ouais.
Et donc, ils m'ont dit, mais tu sais, nous, on a tous les designers qu'on veut chez Gallimard, quand même. Pas exactement. Et puis finalement, ils ont pris Jonathan Barnbrook, ils ont pris les illustratrices. Ils ont pris les photos de Mick Rock qui a fait les couves des deux tomes, alors que Mick Rock ne donnait jamais de photos, ne vendait même jamais de photos pour des livres qui ne sont pas les siens, mais parce que je le connaissais et puis parce qu'il a apprécié mon travail, il a vendu les photos, donc j'ai eu tout ce que je voulais. Je dois dire d'ailleurs que Gallimard m'a laissé faire tout ce que je voulais. Et je sais que j'ai des amis qui font des livres, vous en avez d'ailleurs reçu, c'est pas toujours le cas. Des fois, on n'a pas un droit de regard sur la couverture. Moi, ce livre-là, s'il y a des défauts, si les gens n'aiment pas les illustrateurs, n'aiment pas le design, tout ça, c'est de ma faute.
D'accord. C'est totalement assumé.
Voilà, j'assume.
Alors, parlons-en des illustratrices. Ça devait être un défi pour elle, pour arriver, je vais pas dire à la cheville de la créativité de l'intéressé. Comment ça s'est passé, ce travail?
Bah, ça s'est passé que en fait j'ai été interpellé parce que je suis sur Instagram comme plein de gens et avec 14 personnes et demie qui me suivent, mais c'est pas ça le propos. Et puis un jour, en faisant défiler comme tout le monde fait, je tombe sur des petites illustrations de Bowie et des petites par la taille, mais que je trouvais vachement bien. Et j'ai contacté la personne, faut savoir, sur Instagram, il n'y a pas les contacts des gens. Donc, pour qu'on puisse se contacter, il faut que tout le monde faut que chacun se suive. Alors bon, bref, j'arrive à ce qu'on se suive.
Oui, c'est le problème des réseaux, voilà, c'est que voilà, si on n'est pas dans la boucle.
Et puis donc, je les contacte, et puis je dis à la première, je dis à la personne que je contacte, je dis, voilà, je suis tombé sur vos dessins, etc. Je voulais savoir dans quelle mesure ça vous intéresserait pas de... Et là, elle m'arrête tout de suite et elle me dit, mais écoutez, moi, je ne sais pas quoi vous dire, mais moi, en fait, j'ai 18 ans, je suis à l'école de BD Angoulême. Vous êtes sûr que c'est à moi que vous voulez parler? Ben, je dis, c'est qui dessine les petits... Elle me dit, c'est moi. Ben, je dis, je vais faire un livre sur Bowie. Est-ce que ça vous dirait de l'illustrer? Et là, je crois, il y a eu un blanc. J'ai bien senti que... Et puis, elle reconnaissait mon nom parce qu'elle était abonnée à Rock et Folk. Et puis là, aussitôt, elle me dit, moi, je voudrais bien, mais... Est-ce que je peux les faire avec ma sœur? Alors j'ai dit, parce que tu as une sœur aussi. Alors là, je la tutoie du même coup. Je crois pas que je la tutoie d'ailleurs. J'ai été longtemps à tutoyer. Bref. Et elle me dit, oui. Et donc finalement, je comprends. Ce sont deux sœurs, deux passionnées de musique, etc., qui habitent, une qui habite à Angoulême et l'autre qui habite en Suisse. Alors, tant qu'à faire, je sais pas si vous croyez beaucoup aux choses comme ça, mais Bowie croyait énormément. Mais quand je contacte la sœur aînée de la première illustratrice, elle m'a dit, moi, ça me toucherait énormément parce que j'habite à 2,5 km de là où habitait David Bowie en Suisse. Alors, on peut dire c'est un hasard. Bon, Bowie croyait pas au hasard comme ça. Alors moi, je suis pas non plus trop branché ces trucs-là. Mais il y a eu beaucoup de choses dans ce livre-là qui étaient assez troublants. Et quand elle m'a dit, mais moi, j'habite tout près de là où il habitait. Des fois, je passe, je regarde comme ça. Enfin voilà. Et donc je les ai contactés. Et là, j'ai fait exactement. Alors une fois de plus, hein, en toute modestie, il faut remettre mes propos dans le contexte. J'ai fait exactement ce que Bowie faisait quand il faisait appel à des jeunes. C'est-à-dire qu'elles m'ont dit, mais on fait quoi alors? Et là, je leur ai dit, mais vous faites ce que vous voulez.
Ouais.
Et donc j'ai dit à Gallimard, j'ai trouvé des illustratrices, j'aimerais bien qu'on les prenne, mais on leur dit rien. Alors là, c'était un peu, c'est un peu le cumul des mandats, et finalement, on a tous fait confiance et elles ont fait un boulot exceptionnel.
Ouais, ouais, ouais. Alors c'est comme vous venez de le souligner, David Bowie, c'était un laborantin, accro à la collaboration,
ouais,
en tout,
ouais,
genre.
Ouais, ouais.
Juste avant, on parlait de, genre, on va revenir là-dessus, mais on parlait de la période 80-83. Mm-hmm. C'est un tournant dans sa carrière. Justement, arrive China Girl, arrive Let's Dance, ouais. Chatouille un peu la pop avec son doigt.
Il faut...
C'est pas du goût de tout le monde. A priori, il y en a.
Non, les années 80 de David Bowie ont été très controversées. Mais pour revenir sur ce silence, il faut aussi savoir que il y a quelque chose, c'est expliqué dans le livre, dans le premier tome en l'occurrence, il y a quelque chose qui a tout changé. En fait, c'est l'assassinat de John Lennon.
Ah.
Et l'assassinat de John Lennon a fait comprendre à tous ces gens connus qui faisaient de la musique. Bah que tout d'un coup, c'était plus possible de faire comme avant. C'est-à-dire que McCartney, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, enfin, il continue à le faire, je le sais, mais forcément, il prend prendre le métro ou se balader dans la rue, pour ces gens-là, à partir du moment où on peut se faire assassiner par des gens qui, a priori, vous aiment bien.
Ça prend une autre dimension, effectivement.
Ça fait que, du même coup, Bowie, il était au théâtre, il jouait Elephant Man quand John s'est fait assassiner. Et en fait, aussitôt, les producteurs lui ont dit, mais si vous voulez arrêter, arrêtez, parce qu'on pourrait comprendre que vous n'ayez pas envie de descendre d'une voiture et de faire un petit bout de trottoir, parce qu'on peut effectivement tomber sur un dingue. Enfin, vous pouvez tomber sur un dingue, quoi. Et c'est ça aussi que beaucoup de gens se sont mis un peu en retrait, quoi. Puis aussi parce qu'il se trouve que la fin des années 80, c'est un moment où David Bowie a changé de label, et c'est un moment, comme vous l'avez fait remarquer, où David Bowie a eu envie. En fait, il s'est mis dans la peau d'une star. Il s'est dit, il y a un truc que j'ai encore jamais fait, et Dieu sait s'il avait tout fait pour, pourtant, mais c'est d'essayer de devenir une grande star populaire. Et il a tout fait pour, mais en fait, c'était pas gagné d'avance. C'est pas parce qu'il suffit pas de se dire, tiens, je vais devenir une grande star populaire.
Oui, ça se travaille.
Voilà. Et en fait, il a réussi son pari. Mais ils ont même été dépassés par les événements. C'est-à-dire, pour donner un seul exemple, la tournée Serious Moonlight, donc la tournée de l'album Let's Dance, en fait, elle était programmée longtemps à l'avance, comme toutes les tournées, dans des salles qui finalement ont été bien trop petites. Mmh. Donc au fur et à mesure que la tournée progressait, dans les villes dans lesquelles ils arrivaient, il fallait dire aux gens qui avaient par exemple mis à disposition une salle de 5000, ça va pas suffire, quoi. Mmh. Et pour ceux qui ont vu les concerts de juin à Paris, c'était dans des hippodromes et des machins comme ça, il y avait 40 000 personnes, quoi. Et ça s'est passé partout comme ça dans le monde, quoi. Donc il s'est dit, je vais faire la star, et il l'est devenu, et puis, mais ça a un peu dépassé le truc. Et c'est aussi là que psychologiquement il dit lui-même, hein, enfin, avec un peu d'eau dans son vin quand même, parce que c'était jamais ou tout blanc ou tout noir quand il parlait, mais il trouve quand même que il a dit plein de fois que c'était sa période artistique la plus creuse. Mmh. Plein de gens l'ont estimé aussi. Puis à la fois, c'est toujours facile de dire mais je déteste cette période-là. À la fois, je suis devenu milliardaire, mais je déteste. C'est drôle parce que là, je suis en train de relire les épreuves du livre anglais, puisque j'ai la chance qu'ils sortent dans les pays anglo-saxons. Mais il y a quand même un moment. Il faut quand même se rendre compte que jusqu'à sa dernière tournée, jusqu'à son dernier concert, il a joué des morceaux de ces albums-là quand même. Il a joué Let's Dance jusqu'à la fin de sa vie. Et moi, je l'ai vu encore en 2004 sur scène, et on a encore échangé en 2004 après un concert. Et je me rappelle que je l'ai charrié, peut-être c'était en 2003, en lui disant « Alors je croyais que Let's Dance… » Et puis il me faisait « pou, 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 pou.
» Voilà. Ok. Alors, il a dit aussi dans différentes interviews, justement, dans ce qui le dessert un petit peu, ou en tout cas dans ce qu'il a reconnu, qu'il aimait pas chanter. en fait.
Il n'aimait pas sa voix.
Il n'aimait pas sa voix. Et est-ce que ça explique son besoin de collaboration, justement, de voir ses œuvres interprétées par d'autres, selon vous ?
En fait, ce n'est pas un besoin de collaboration. Alors, le fait qu'il n'aime pas sa voix, c'est pas du tout original, entre guillemets. Il y a quelqu'un d'autre, dont je viens de parler d'ailleurs, qui n'aimait pas du tout sa voix, c'est John Lennon. Mmh. Alors, et du même coup, ça met dans une situation où on se sent toujours l'élève de quelqu'un. Et pour Bowie, les grands chanteurs, il y en avait au moins deux, c'était Scott Walker et c'était Lou Reed. Alors, ça peut faire sourire parce que Lou Reed est plutôt ce qu'on appelle un phraseur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand on écoute Walk on the Wild Side, c'est pas...
On est à la limite du slam, quoi.
Enfin, c'est du talk-over presque, pratiquement, mais à la fois, il a un timbre tout à fait incroyable et génial. Et Lennon, lui, n'aimait pas du tout sa voix et demandait à ce que, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à l'enregistrement de l'album Double Fantasy, d'ailleurs, ça s'entend énormément sur Just Like Starting Over, en fait, sa voix, elle est doublée, triplée, quadruplée. En fait, il chantait pour plusieurs couches de la même chose pour en se disant « Oh, bah, c'est moins pire comme ça. » Et Bowie, c'est pas vraiment qu'il n'aimait pas sa voix, c'est qu'il trouvait que les gens qu'il aimait chantaient mieux que lui. Et Bowie a passé sa vie, en fait, à considérer que il savait qu'il y avait des choses qui étaient bien, forcément. Il n'était pas complètement idiot. Mais en revanche, il a toujours trouvé que ce qu'il faisait était beaucoup moins bien que ce qu'il aimait depuis qu'il était môme. C'est-à-dire qu'il a considéré, quand Lou Reed est mort, il a dit « le maître est mort ». Il a pensé jusqu'à la fin de sa vie que Lou Reed était bien meilleur que lui, mais sincèrement, c'est pas de la fausse... Et il pensait que Scott Walker était bien meilleur que lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'en vieillissant, puis aussi parce que pendant 30 ans, il a fumé 3 paquets de clopes par jour, en vieillissant, sa voix a changé, il est allé dans un registre qu'on considère plus comme baryton, ça s'appelle comme ça, et d'ailleurs, il était incapable de chanter dans les tonalités d'origine les morceaux tels qu'on les entend sur les disques. La dernière fois où il a chanté Life on Mars, c'est-à-dire relativement tard, ça doit être en 2006. En fait, s'il y a des musiciens, enfin, les musiciens comprennent, il chante la chanson 2 tons et demi plus bas.
Ah oui, donc
c'est la version originale. Et donc c'est énorme. C'est énorme. Il était incapable de faire la montée, les montées comme Life on Mars, qui est un truc, qui est un exercice. Enfin, à chanter, c'est un enfer.
C'est très difficile cette chanson-là. La moralité, c'est ne fumez pas. Si vous voulez garder une voix fraîche. On va marquer une petite pause musicale avec un titre de votre choix.
Yes.
Qui n'a absolument rien à voir du coup avec le sujet dont on traite.
À la fois, ils sont super fans aussi.
Mais ils sont, ça reste quand même, il y a une petite acquaintance. Je vais vous laisser le présenter du coup, comme ça vous allez pouvoir nous en parler un petit peu mieux.
C'est un groupe d'Alaska, originaire d'Alaska, qui habite à Portland aux États-Unis. C'est mon groupe fétiche depuis 10 ans. J'en parle, j'en tartine des pages dans Rock et Folk, et il s'appelle Portugal The Man. Ils sont 5, des fois 6, il y a la copine du chanteur qui est dans le groupe, des fois, mais pas tout le temps, et c'est absolument extraordinaire. Ils ont fait un tube que tout le monde connaît forcément, qui s'appelait Feel It Still, il y a 2 ans, juste avant le Covid, et ça c'est un morceau qui s'appelle So American.
Et c'est tout de suite sur Radar et sur Replay.
Replay! If pain was a color to paint on you, your heart would be the color blue. Be a gradient from there until your body met your head, which remained a silver. You are the one they call Jesus Christ. Didn't own a rock and roll. Just a mission in a gun that they rainbows in Vietnam, and a heart that always told you there's a man. But he was born of this world. He was born of all the mothers and the colors of our brothers and the love that was taught to you by the one they called Jesus Christ.
Vous écoutez Radar et vous écoutez cette interview en multidiffusion sur Radio Replay. Nous sommes en compagnie toujours de Jérôme Soligny qui nous fait la joie et l'honneur de d'être venu à la galerie L'Œil Histrion en plein cœur de Caen. Et nous sommes en direct avec lui. On était en train, vous venez d'entendre à l'instant Portugal The Man avec le titre So American. C'est un choix de Jérôme Soligny. Est-ce que ça va toujours bien?
C'est super.
Super.
Oui, très bien.
On est toujours sur le sujet Bowie puisqu'on parle des deux tomes, en l'occurrence, David Bowie, Rainbow Man, les deux tomes, donc est-ce qu'il faut les citer, 67 à 80 et 83 2016, il y a le coffret, il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez encore nous rejoindre si vous nous écoutez. On parlait des collaborations, on parlait de son dégoût pour sa voix, mais c'est pas vraiment le terme. On voit Gail Ann Dorsey régulièrement, donc Gail Ann Dorsey, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la bassiste, enfin la bassiste, on va y arriver, de David Bowie, qui lui rend régulièrement hommage ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pensez de son travail de mémoire?
Oh bah c'est une super musicienne
déjà,
voilà, qui a été une des premières interviewées du livre, puisque j'ai eu la chance de la côtoyer un petit peu après les concerts de Bowie de la fin, puisque Gail Ann en fait a joué sur les dernières tournées, donc voilà, elle habite en France en ce moment, donc c'est pour ça qu'on la voit pas mal, si j'ai bien compris.
Ouais, et puis elle collabore pas mal aussi avec M en ce moment, j'ai l'impression, ça bosse pas mal. Mm-hmm. Et puis elle était dans Skunk Anansie pour la replacer aussi. C'est pas ça?
Non, elle jouait avec Lenny Kravitz en fait, sinon.
Oui, avec Lenny Kravitz aussi.
Avec Lenny Kravitz.
Elle avait pas fait les Skunk ou c'est quelqu'un d'autre? Bon, faudra reconfirmer. On a une idée du côté de chez Benson, Radio Replay. Skunk Anansie, ça dit quelque chose? Et qui lui ressemble beaucoup, mais c'est pas elle.
C'est pas elle, non.
Voilà,
non,
donc non, c'est une erreur de ma part.
Elle aurait pu jouer de la basse aussi.
Oui, oui, alors, enfin, franchement.
Là, j'ai quelques failles côté Skunk Anansie, je le reconnais.
On en a tous.
Voilà.
On va revenir sur votre personnage à vous. On vous doit, parce que on a cité en début de d'interview que vous étiez à la fois biographe, ça on s'en doute, écrivain, compositeur, photographe, conseiller rock and folk, etc. J'en passais des meilleurs. On vous doit entre autres Duel au soleil, L'improbable et magnifique L'autre joue.
Mm-hmm.
Avec Lio, une belle collaboration, la production d'albums pour Les Innocents ou Chepraled, Peter Kingsbury pour les plus connus, on ne va pas s'étendre non plus, mais il y a eu énormément de choses. Vous avez fait aussi la musique officielle du Pont de Normandie.
Ouais, c'est
incroyable,
vrai, ça.
Ce truc.
Ouais.
Et on sent que vous n'avez pas d'a priori pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. Me trompe-je?
C'est-à-dire que... Faut pas me lancer là-dessus parce
que moins,
ça va vous amuser, mais peut-être pas celui-ci.
Fausse piste.
À la fois, j'ai du mal à saisir le concept culturel de ma ville, Le Havre, et j'ai été. C'est pas forcément un reproche, mais enfin bon, je crois que les gens qui s'occupent de la culture au Havre ont une aversion pour les artistes havrais. Mmh. Et donc, j'ai eu par le passé, j'ai été sollicité deux fois en 35 ans pour faire des choses, et j'étais ravi de le faire à chaque fois. Et donc, effectivement, notamment une fois pour faire des musiques, une espèce de thème pour le pont de Normandie. Mais alors, je sais pas si les gens se rappellent, il faut vraiment avoir vécu pour se rappeler ça, mais en fait, le jour de l'inauguration du pont de Normandie, ça a été une catastrophe, il a fait un temps pourri, etc. Et tout ce qui devait avoir lieu a été annulé. Et en plus... au niveau infrastructure routière autour, c'était un vrai délire. Donc ça s'est terminé dans la boue, dans le vent, etc. Toutes ces personnalités de droite qui s'envolaient, c'était désespérant. Et finalement, ma musique a été passée à un moment sur une vague sono qui ressemblait plus à un truc d'animation de kermesse. Et bien sûr, avec le vent, on n'entendait rien. Enfin, c'était un four total. Et je m'en suis remis. Hein, tout le monde s'en est remis. Mais en revanche, c'est vrai que quelques années après, enfin de temps en temps sur mon relevé SACEM, parce qu'il y a encore des gens qui touchent un peu de droit d'auteur, il y a écrit thème pour le pont de Normandie. Donc ça veut dire que quelque part il y a une émission technique ou un truc comme ça, et ils se sont dit tiens, on a ça dans les archives, on a quelque chose, ouais. ça serait pas mal comme musique de fond.
Alors
j'ai fait ça à mes camps, mais c'est vrai que quand je passe dessus, j'ai eu longtemps sur ma voiture l'autocollant du pass du jour où j'ai l'inauguration, et en fait quelqu'un m'a dit non, mais même avec des passes on passe pas. Alors, bon, c'était génial.
Alors la question tournait pas vraiment autour de ce truc-là.
Je suis plus fier de l'autre joue ou de la baie pour Étienne ou effectivement de Le Soleil ou voilà ce genre de choses.
Et donc l'idée c'était vous n'avez pas d'a priori avec les personnes avec qui vous travaillez. Vous parliez de Souchon tout à l'heure, enfin en off.
Enfin il faut savoir que une fois de plus on peut pas passer la journée à parler de ça, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit du journalisme, que ce soit même jusqu'à ces livres-là d'ailleurs, il faut savoir, quand David Bowie est décédé, j'ai pas fait la tournée des Grands Ducs des éditeurs en disant qui veut me faire un livre. Moi je voulais rien faire. Il a fallu que ce soit Gallimard qui vienne me chercher et qui me donne un argument en béton pour éventuellement que je réfléchisse. C'était de dire on a compris que vous voulez rien faire, mais nous ce qu'on vous propose c'est de faire ce que vous voulez. Donc vous réfléchissez et tout ce que vous nous proposerez on vous dira oui. Donc du même coup c'est comme ça que j'ai réfléchi. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai fait du journalisme rock parce qu'on me l'a demandé, j'ai écrit des chansons pour les gens parce qu'on me l'a demandé, j'ai jamais fait du porte-à-porte avec mes chansons. Si j'avais fait je serais 10 fois plus riche, mais je l'ai jamais fait. Donc en fait grosso modo j'ai écrit avec Étienne parce qu'on est devenus amis et qu'il a chanté mes chansons, qu'il a dit qu'il le ferait puis qu'il l'a fait. Puis après j'ai écrit pour des gens qui étaient dans sa galaxie parce qu'il disait à Dany ou il disait à Lio justement tiens ça serait bien que tu fasses cette chanson là Jérôme, etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais moi j'ai jamais fait du porte-à-porte avec mes chansons, je suis jamais allé voir. Normalement quand on sait qu'une chanteuse fait un disque ou qu'un chanteur fait un disque, si on est auteur-compositeur, on se fout en travers d'un train pour dire eh, putain j'existe et je fais des chansons géniales. Moi j'ai jamais fait ça. J'en ai fait très peu.
Ça a toujours été des opportunités finalement qui vous sont tombées dessus finalement.
C'est un peu ça.
C'est une bonne étoile qui vous suit.
Ouais, c'est une bonne étoile. Alors je sais quand je dis ça, les gens disent oui, c'est de la fausse modestie tout ça. Alors, c'est pas vrai. Je sais qu'il y a un travail. Je sais que les gens me demandent des choses en ce moment. On me demande beaucoup de choses parce que j'en ai fait d'autres. Et voilà, là, je vais travailler pour un autre éditeur, anglais, parce qu'ils savent que Rainbow Man sort en Angleterre, etc. Et il y a quelqu'un qui se dit tiens, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, mais à chaque fois, c'est ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été dans la démarche d'aller chercher le travail. Quoi. Rien qu'en répondant aux sollicitations, je suis complètement débordé.
On vous conseille la lecture. Une dernière question, juste avant qu'on termine, parce que c'est déjà l'heure de la fin. Qu'est-ce que vous conseillez à Rock & Folk ?
Je conseille le rédacteur en chef.
Mais oui, vous lui conseillez quoi ?
Bah, je lui conseille de... quand vous tiendrez le prochain numéro entre vos mains, vous verrez ce que j'ai fait dedans. J'en dis pas plus. Mais un conseiller, ça conseille. C'est-à-dire que je sais que ça peut faire rire, mais je l'ai fait avec Philippe, Manœuvre, pendant très longtemps, puisque c'est Philippe qui m'a donné ce titre-là. Alors, Philippe n'est plus à Rock & Folk, mais moi, j'y suis toujours. On m'a laissé le titre. Et en fait, ça veut dire tiens, Jérôme, on a envie de faire ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Tiens, on va mettre ça comme disque du mois. Qu'est-ce que t'en penses ? De quoi t'as envie de parler ? Voilà. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais aucun article de Rock et Folk qu'on m'a demandé de faire. Je ne fais que des trucs que j'ai envie de faire. Et surtout, je fais tout ce que j'ai envie de faire, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire que tout le temps que Philippe manœuvre, les gens qui pensent, par exemple, que Philippe est quelqu'un de... Enfin, à tort, hein, mais qui pourraient ne pas imaginer que Philippe, par exemple, puisse trouver que c'est une bonne idée de faire des articles sur les Pet Shop Boys, par exemple, qui est un de mes groupes préférés. Eh bien, il faut savoir que Rock et Folk est le journal qui, selon Neil Tennant, le chanteur des Pet Shop Boys, a certainement consacré le plus d'articles au groupe. Donc ça veut dire qu'en tant que conseiller, je pouvais non seulement conseiller de parler de ça parce que je pensais que c'était bien, et puis aussi Philippe, le rédacteur en chef, il y en a un autre actuellement avec qui je m'entends super bien aussi, dit bon bah voilà, si Jérôme dit qu'il faut le faire, faut le faire. Quand on a fait si on fait Portugal The Man, quelqu'un me dit bah c'est une bonne idée. Il y a plein de couves que je décide avec le rédacteur en chef actuel et que j'avais décidé. Puis il y a aussi ça peut arriver avec Philippe, ça pouvait arriver que Philippe, ceux qui le connaissent ne seront pas étonnés, il est capable de me foutre la paix pendant 2 mois, puis de m'appeler 2 fois par nuit, après pendant 15 jours. Voilà. Donc, et sans que lui-même voit la différence, d'ailleurs, entre...
Oh, alors, on a du monde, hein, c'est en public, c'est en direct.
Il a peur qu'on dise du mal de Philippe Manœuvre.
C'est ça, ouais. Non, il y a des chiens qui passent devant la galerie.
Donc, je conseille la rédaction. Voilà.
Ok, merci pour cette précision, en tout cas. Merci pour l'ensemble de votre présence, tout simplement. On vous conseille donc forcément de vous munir des 2 tomes. Donc, achetez le coffret directement, ça va être beaucoup plus simple. Rainbow Man 67-80 et Rainbow Man 83-2016. On vous conseille d'écouter Portugal The Man.
Voilà,
on vous conseille d'acheter le dernier Rock and Folk pour
et le prochain.
Voilà, le prochain surtout. Et on vous remercie encore de votre présence.
Merci de m'avoir invité. Merci mille fois.
On remercie également l'œil Histrion de nous avoir accueillis. On remercie Radio Replay de rediffuser cette interview très prochainement sur ces ondes. Et on vous remercie tous de nous avoir suivis sur Radar. Dans quelques instants, ce sont les programmes musicaux de Radar qui vont continuer avec de la musique beaucoup plus locale. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. Ciao, 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 salut.